Je vous rappelle que Saint-Étienne mène par 2-0. Les deux équipes sont à égalité sur l'ensemble des deux matchs. Il reste 8 minutes dans la prolongation. Et après ces 8 minutes, alors que c'est encore Patrick Révelli là. Oui, il va s'y centrer. Et c'est Rostaud qui marque. Le but de la victoire, sans doute, par Rostaud. Oh, c'est extraordinaire. Je vous l'ai dit, Patrick Révelli est en grande forme. Il a réussi à dribbler toute sa défense et à donner un retrait à Rostaud qui a marqué. Et oui, Rostaud qui souffrait de crampes il y a peu de temps, réussit le but.
Histoire 2, Patrick Boucheron sur France Inter.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mais oui, c'est extraordinaire et on ne va pas bouder notre plaisir. Le buteur du match qui opposa le 17 mars 1976 l'AS Saint-Étienne au Dynamo Kiev, Dominique Rostaud, est là dans notre studio. Et avec lui, pour les gens de ma génération, c'est l'enfance de nos vertes années qui se rappelle à notre bon souvenir. Vous me direz, c'est attendrissant, mais en quoi cela concerne les historiens? Eh bien, précisément, dans moins d'une semaine, le 28 mai, le Stade de France accueillera la finale de la Ligue des Champions qui aurait dû avoir lieu à Saint-Pétersbourg, en Russie. Et c'était dans l'URSS d'alors que s'était déroulé, en 1976, le match aller de la confrontation entre Saint-Étienne et Kiev dans l'atmosphère glaciale d'un stade de Crimée sous l'œil sévère des militaires russes qui emplissaient les tribunes. Car c'est ainsi avec le football. La grande histoire, celle des nations, mais aussi, on va le voir, de l'immigration ou des classes sociales, s'invite dans nos mémoires intimes au point de rendre indiscernables la chronique et la légende. Faut-il d'ailleurs les démêler? On en discutera avec le footballeur Dominique Rostaud, qui a toujours gardé un œil critique et malicieux sur les imaginaires qu'on projetait sur lui. L'historien François Darrocha-Carnero fait aussi partie de la feuille de match. Il entrera, mais en seconde mi-temps, en charnière centrale avec le sociétaire du jour, Paulin Ismar. Et alors, on évoquera l'équipe de France et alors, on passera du maillot vert au maillot bleu. Dominique Rostaud, bonjour.
Bonjour.
En 1995, Maurice Pialat vous a donné un rôle dans son beau film, et oui, Le Garçu, vous y promeniez votre sincérité, faussement nonchalante, et on raconte, en tout cas je l'ai lu, qu'à la fin du tournage, il vous aurait dit « C'est bon, tu sais, on a complètement oublié que tu as joué au football ».
Ah oui, c'était un aparté là, un aparté dans ma carrière, et ça a été un grand souvenir. Avec Maurice Pialat, bien sûr, que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup ses films. Je crois que j'avais vu tous ses films.
Tous ses films, on peut les revoir sur Arte.
Et puis on les revoit, bien sûr, encore. Et ça a été son dernier film, en fait.
Oui.
Voilà. Et c'était avec Gérard Depardieu, bien sûr.
Bien sûr. Alors c'était un beau compliment. On a complètement oublié que tu as joué au football. Mais dans la vraie vie, hors des salles obscures, c'est pas vrai du tout. Vous savez qu'on s'en souvient, Dominique Rostaud. Ça vous embarrasse, cette mémoire qu'on vous colle à la peau?
Non, pas du tout, parce que j'étais moi-même et puis j'ai toujours eu envie justement de même quand j'ai fait une carrière de footballeur, c'était ma passion, mais en dehors de ça, j'avais toujours d'autres passions et puis j'ai toujours beaucoup aimé la musique, que ce soit la musique rock californienne,
les Eagles,
par exemple. D'ailleurs, je partais aux États-Unis pendant ma carrière, à la trêve, pour aller faire des. Je faisais mon petit programme, puis je suis allé voir des concerts. Ouais. Et voilà. Enfin, j'étais à l'époque un jeune de mon époque, quoi. Voilà, j'aimais plein de choses.
Vous aimiez le jeu aussi, le beau jeu. Mais vous écrivez dans votre livre de mémoire, on m'appelait l'ange vert, que vous n'avez pas d'idole dans le foot. Je n'ai aucun goût pour l'idolâtrie, d'ailleurs.
Parce que j'aimais pas le mot idole, en fait.
Ouais.
Mais bien sûr que j'ai aimé beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs que j'ai aimés. Je pourrais en citer plein. Bien sûr, Johan Cruyff, bien sûr.
C'était un modèle de liberté pour vous.
Je ne pouvais pas dire que c'était mon idole. Même quand j'allais voir des concerts de musique, je suis allé voir Neil Young plusieurs fois parce que j'aimais beaucoup Neil Young. Pour moi, c'était pas mon idole, quoi. On m'avait proposé d'aller le voir en backstage, mais j'ai pas voulu parce que, voilà, j'aime pas le côté idole, fan, enfin voilà.
Vous êtes né dans une famille d'ostréiculteurs, oui. Dominique Rocheteau, et puis à un moment vous partez au lycée, et ce que vous décrivez comme exil, comme solitude, ce sont ces années d'internat à Royan, c'est loin Royan, 17 kilomètres de chez moi, écrivez-vous. Oui. Ça n'a rien à voir avec le, voilà, la jeunesse d'un footballeur actuel dans un centre de formation en fait.
Oui, mais j'ai quand même fait partie des jeunes à l'époque qui ont... C'était vraiment le tout début des centres de formation, même si c'était... Moi, quand je suis arrivé à Saint-Etienne, j'arrive très jeune à Saint-Etienne. J'arrive à 15 ans et demi, 16 ans. Pour l'époque, c'était assez jeune.
Vous êtes stagiaire, alors
Stagiaire, et le centre de formation, en fait, c'était des appartements dans la ville, en ville, quoi. Et puis, on se débrouillait, quoi. Et je m'entraînais le soir avec les amateurs parce que j'allais au lycée. Enfin, bon, voilà. Donc, ça, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec, avec l'organisation, les structures de maintenant. Moi, j'ai eu le sentiment, surtout, d'avoir passé une jeunesse normale. J'avais des copains au lycée, j'avais mon premier match, tous mes potes de lycée de l'époque sont venus voir mon match, ils avaient une pancarte à Geoffroy Guichard. Ouais, enfin bon, ouais. Voilà, j'ai passé une jeunesse normale.
Alors, vous racontez vos copains, justement, il y en a un qui s'appelle Jean-Luc, je le cite toujours, je vous cite toujours, ado. J'avais lu Bakounine, Jean-Luc m'influence beaucoup, il me fait découvrir les penseurs politiques du 19e siècle comme Proudhon.
Par exemple, oui. Ouais. Ouais.
Vous pensez qu'un footballeur pourrait raconter ça aujourd'hui?
Un peu révolté, révolutionnaire à l'époque.
Ça c'est quand même un truc
Un peu engagé, ouais, mais engagé, bon voilà.
De toute façon, vous avez une famille engagée à gauche.
Oui, bien sûr. À gauche, très à gauche, parti communiste, mais mon oncle qui est parti à Buchenwald, enfin bon, voilà.
J'ai même lu que lorsque vous... En 1980, vous passez au PSG. Eh bien, la nouvelle du transfert, vous la réservez avec un copain journaliste à Rouge. Ça encore, c'est pas tout à fait le football d'aujourd'hui.
Non.
Mais vous avez présidé la commission d'éthique de la Fédération française de football. Vous regrettez évidemment la place qu'a pris l'argent dans la carrière des joueurs professionnels. Mais pourtant, vous n'êtes pas un nostalgique, Dominique Rocheteau. On peut pas compter sur vous pour dire c'était mieux avant.
Ah non, surtout pas. Surtout pas, parce que je prends encore beaucoup de plaisir à regarder des matchs. Et j'ai vu un très beau match pour la finale de la Coupe de l'Europa League, là, entre les Gazoo Rangers et Francfort, avec une ambiance formidable. Et pour moi, ça, le football, c'est ça, quoi.
Qu'est-ce qui est mieux aujourd'hui?
Du football, bien sûr, je suis conscient.
Qu'est-ce qui est mieux? Les schémas tactiques, qu'est-ce qui est plus intéressant dans le football actuellement?
Bon, il y a une évolution, bien sûr. Il y avait plus de... Il y a certainement plus de liberté sur le terrain à mon époque. C'était peut-être même un peu plus simple pour les attaquants, même si on était un peu moins protégés. Mais non, moi, ce qui m'intéresse dans le football, c'est surtout l'aspect... bien sûr qu'il y a des organisations tactiques... défensive, offensive, mais moi ce qui m'intéresse c'est la spontanéité dans le football, toujours le talent aussi, et puis la technique. La technique, ça, de toute façon, elle a toujours été. Et puis il y a la vitesse d'exécution qui a changé, qui a évolué, bien sûr. Les matchs sont pas télévisés de la même façon aussi. C'est ce qu'on me dit toujours. Ah oui, mais à votre époque, vous jouiez à 2 à l'heure. Oui. Bon, ok, mais on jouait pas à 2 à l'heure parce que là, je défends ma période, parce que c'est vrai que les matchs les caméras étaient différentes, étaient placées différemment. Donc voilà.
Bien sûr.
Il y avait une caméra, je me rappelle, pour le match justement de Saint-Étienne-Kiev, la quart de finale de Coupe d'Europe. Je crois qu'il y avait une caméra dans la tribune et puis voilà, c'est tout. Maintenant, les caméras partout et on voit la vitesse d'exécution.
Alors on va raconter ça justement, on va se concentrer sur cette année 1976, donc vous jouez sous le maillot des Verts, vous êtes engagé à gauche mais vous jouez à droite. L'équipe de Saint-Étienne, ça correspond aussi à un certain moment dans l'histoire ouvrière en France, hein. C'est le moment, dites-vous, où quand quelqu'un ne mouille pas le maillot, et ben dans les tribunes on crie à la mine.
Oui, complètement. On le sentait encore plus dans les... quand j'avais 16 ans, 16, 17 ans, avec l'équipe de réserve de 3e division, parce qu'on jouait à Geoffroy Guichard devant peut-être 1000 spectateurs. Donc là, on entendait tout. Quand on n'était pas bon, c'était à la mine, parce que c'est une ville ouvrière, Saint-Étienne, c'est une ville de mineurs, avec beaucoup de... Une identification des supporters, du public total avec son club.
Donc, il n'y a que Lens qui est comparable,
ouais,
en fait.
Oui, voilà, c'est ça. Non, c'est ça. Ouais, je vois pas d'autres. Avec des valeurs, bien sûr, les valeurs de la ville, hein. C'est ça, en fait.
Oui. Donc on parle.
Vous aimez bien qu'on mouille le maillot, ça.
Ouais, c'est ça. Donc vous avez 20 ans. En 1976, mars 1976, quart de finale de la Coupe d'Europe, vous tombez sur le Dynamo Kiev, mauvaise pioche, hein, c'est le
ouais, champion, c'est la meilleure équipe,
champion en titre. Mmh. Puis il y a un joueur terrible, Oleg Blokhin, c'est un artiste lui. Il a d'ailleurs ensuite entraîné l'équipe.
J'ai eu la chance d'aller à son jubilé, à la fin de ma carrière, ouais. À Kiev notamment.
À ce moment-là, donc il a entraîné l'équipe d'Ukraine, mais à l'époque c'était évidemment l'URSS. Alors on l'a dit, il neige trop pour jouer à Kiev. Vous allez en Crimée.
À Simferopol.
Et là,
sur la mer Noire.
Et là, on peut dire que votre sympathie pour le régime communiste prend un coup de froid.
Oui, parce qu'on a l'impression d'être complètement enfermé dans l'hôtel, surveillé à tous les étages. Donc là, je vois vraiment comment ça se passe là-bas. On peut pas sortir, c'est impossible. Oui. On peut pas sortir en ville. Et puis quand on arrive au match, ben c'est un, je dirais, il y a un stade vraiment sombre, je me souviens. Et puis beaucoup de militaires, quoi.
Oui.
Beaucoup de militaires.
Et à la fin, vous perdez 2-0.
Ouais.
D'où le match retour mémorable qui se déroule le 17 mars 1976. Et on l'a entendu, vous marquez 8 minutes avant la fin de la seconde prolongation.
J'ai entendu Pierre Cangioni.
Oui. Mmh. Vous êtes épuisé, exsangue, perclus de crampes. C'est la fête dans les vestiaires et après, dans les bars de Saint-Étienne. Mais vous, vous préférez prendre votre voiture, une coccinelle, pour repartir chez vous à la campagne. C'est quand même un autre, oui, encore une fois, une autre époque.
Ah ben oui, complètement. Mais même moi, si j'étais très, on était tous très, très liés, parce qu'on a grandi ensemble avec cette équipe, mais avec des générations un peu différentes, parce qu'il y avait Osvaldo Piazza et Kurkovic qui arrivaient de l'étranger. Il y avait toute une autre génération qui était sortie 2 ou 3 ans avant. Puis moi, il y avait ma génération avec Dominique Battenet, Gérard Janvion, et j'étais un peu le petit jeune de l'équipe. Et c'est vrai que pour ce match-là, il y avait une telle ferveur, après le match, un tel engouement. C'était, puis je savais qu'en ville ça allait être pareil, quoi. Donc je préférais repartir dans un petit chalet tranquillement.
Alors on peut pas tout raconter, mais la demi-finale vous attend, vous battez le PSV Eindhoven, et puis à la finale, le 12 mai, à Glasgow, contre le Bayern de Munich. Vous partez en vacances, en fait, vous auriez pu, aujourd'hui, effectivement, vous auriez eu une préparation physique
aujourd'hui,
intense.
Aujourd'hui, je pense que, sincèrement, que j'aurais pu jouer la finale, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est l'évolution du sport en général, l'aspect préparation, l'aspect physique, l'aspect médical aussi. Et c'est vrai que là, mais pourtant Saint-Étienne était en avance pour son époque, mais on m'avait laissé partir chez moi pour m'opposer tranquillement parce que j'avais une déchirure, mais sans véritable soin. Mmh. Donc quand je suis revenu une semaine avant la finale, j'étais pas guéri et malheureusement j'ai pas pu jouer cette finale.
Et les poteaux étaient carrés.
J'avais 20 ans et les poteaux étaient carrés. À l'époque, je me disais, bon, des finales, j'en jouerai d'autres, mais finalement, j'en ai pas joué d'autres.
Oui. Et en tout cas, cette finale, elle est perdue, mais le retour est triomphal.
Ouais.
Vous descendez les Champs-Élysées.
Triomphal parce que Saint-Étienne était l'équipe de France, en fait.
C'est
comme si c'était l'équipe de France. Toute la France était derrière Saint-Étienne, ce qui n'est plus possible actuellement. Il y a trop d'animosité, je dirais, entre les clubs. Et donc, on était toute la France était derrière nous. Et puis, c'est Jacques Vendroux qui a organisé, c'est mon ami du variété, qui a organisé cette descente des Champs-Élysées. Et voilà.
Qui était vert de monde.
Une équipe qui perd et qui descend les Champs-Élysées.
C'est bizarre. Et même, vous êtes
reçu par Giscard d'Estaing.
Par Giscard d'Estaing. Ouais, ouais. Et cette auréolée de cette défaite glorieuse, on va en parler dans la deuxième partie. Ça a été ça aussi longtemps, l'équipe de France. C'est-à-dire l'équipe qui jouait merveilleusement bien et qui perdait à la fin. Il y a votre copain Dominique Battenet qui vous dit...
On n'a pas toujours perdu, hein. On a quand même ces champions d'Europe.
Bien sûr, mais on va en parler. Dominique Battenet vous dit, montre-toi, c'est toi qui le veux voir. Et cela vous met terriblement mal à l'aise.
Ah bah oui, franchement, après on change pas de caractère. Hein. Voilà, moi j'aimais pas ces manifestations. Enfin, j'étais pas à l'aise, quoi. Voilà, donc j'étais un peu terré dans ma voiture là. C'était comme ça, quoi.
Histoire 2. Patrick Boucheron sur France Inter.
Quand j'entre sur le terrain, j'éprouve le même bonheur qu'à l'époque où j'étais professionnel. Je retrouve les sensations inoubliables de l'enfance et lorsque je regarde un Ronaldinho à la télévision, j'ai l'impression qu'il ressent les mêmes joies que moi, écrivez-vous, Dominique Rocheteau. Donc, on m'appelait l'ange vert.
Moi, je veux pas me comparer à des joueurs comme Ronaldinho.
Non, mais bon, c'est l'enfance. C'est cette joie.
Cette enfance qui reste tout le temps, quoi. Cette envie, ce plaisir. Moi, c'est pour ça que j'organise mes stages de foot maintenant à Royan avec les enfants, c'est ce que je leur fais passer comme message avant tout, quoi. L'important, c'est pas parce que j'ai l'impression que parfois, mais là encore, je veux pas faire l'ancien combattant, que des jeunes choisissent de jouer au foot ou choisissent une carrière de professionnel, pas forcément, parfois pour les bonnes raisons. Donc maintenant, il y a l'aspect financier qui entre en jeu et pour moi, le foot, ça a toujours été ça, le plaisir de jouer avant tout et se s'amuser sur un terrain, et j'ai pas eu l'impression d'avoir fait un métier, en fait. J'ai l'impression d'avoir exercé ma passion pendant toute ma carrière.
Vous allez voir, après la pause musicale, on va recevoir des historiens, et eux aussi sont des grands enfants. Vous allez entendre.
D'accord.
Toujours en compagnie de Dominique Rocheteau, nous nous interrogeons, que reste-t-il d'un match de football? C'est une denrée périssable pour l'écrivain Jean-Philippe Toussaint, une denrée qui n'existe que dans l'émotion du présent. Pourtant, cette émotion, on ne cesse de la remémorer. Et si, dans la seconde mi-temps, on faisait entrer des historiens sur le terrain, est-ce qu'ils vont nous pourrir le jeu en cadenassant la défense? Je ne crois pas, parce que, je l'ai dit, ces deux-là ont gardé leur âme d'enfant. Entre donc Paulin Ismar, amateur de football, et François Darrocha Carnero, qui lui est un historien professionnel de l'histoire sociale des footballeurs. François, bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez au lycée Jean Moulin de Roubaix et êtes chercheur associé à l'université d'Artois. On vous connaît aussi comme vice-président de la PhD. Pour vous aussi, le football, c'est une histoire de transmission.
C'est une histoire de transmission en amont et en aval. C'est une histoire de souvenirs, bien sûr, d'enfants. Et c'est une histoire de parents qui transmet ensuite cette fascination pour un jeu de ballon. Une fascination quasiment incompréhensible, a priori.
Dominique Rocheteau, votre père aurait pu être footballeur.
Et oui, mon père était un très très bon joueur.
Oui.
Non, il était
ostréiculteur. Coppa lui a dit d'ailleurs. Coppa lui a dit.
Oui.
Vous auriez pu jouer à Reims.
Oui, il lui avait dit, parce qu'il avait fait un match, avec des anciens pros. Et, c'est vrai, mais bon, à l'époque, c'était pas la même, le recrutement était différent.
De Coppa à Mbappé, c'est le sous-titre de votre livre, François Darrocha Carnero, Les Bleus et la Coupe, paru en 2020. Et vous vous posez la question du récit historien, à quelle hauteur raconter un match de football? Paulin Ismar, c'est cette question au fond de la narration qui vous a intéressé.
Oui, alors ce livre, c'est vraiment un grand plaisir de lecture. Et alors, pour un historien, ça pose d'emblée une question qui est intéressante, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut raconter le football? Pas seulement faire une histoire sociale du football ou une histoire de la société à travers le football, mais tout simplement comment raconter en historien un match de football, une préparation. Et alors, d'autant plus que, évidemment, ces matchs, ben, pour un lecteur, ils sont souvent ancrés dans nos mémoires, ils sont chargés d'énormément d'affect, et on voit bien que il y a tout ce travail dans votre écriture, qui est un travail véritablement d'historien, de raconter un match de football de façon différente de ce que ferait un journaliste sportif ou de ce qu'ont pu faire les acteurs de ce match. Presque, on pourrait dire, refroidir l'objet, le décrire cliniquement. Et une grande partie du plaisir qu'on a, en fait, à lire votre livre, bah, c'est retrouver ses souvenirs, mais avec une écriture étonnante, en fait.
Oui, l'un des buts du jeu, c'est de faire ressortir un petit peu l'émotion, de refroidir, comme vous l'avez dit, l'objet, comme tout historien peut le faire, en croisant des sources, en croisant des archives différentes. Nous reposons souvent sur la presse en histoire du football, et en essayant de contextualiser cet ensemble, en démultipliant les temporalités, que ce soit la temporalité de l'action même, puisque l'action, le ballon, où il se trouve à un moment donné du match, est elle-même histoire, temporalisée également un temps plus long, qui est celui du match. Alors, s'agit-il d'un temps long, d'avoir 90 ou 120 minutes à Séville? Et puis, un temps beaucoup plus long d'inscrire, par exemple, le travail du footballeur dans un match, Dominique Rocheteau en l'occurrence, dans une histoire du football français, qui est celle d'une formation qui est en train de se mettre en place au début des années 70, avec l'ouverture des instituts de formation, des centres de formation dans les clubs et de l'INF à Vichy. De l'inscrire également dans une médiatisation du football qui est en train de se faire par la télévision, qui arrive et qui donne une véritable chambre d'écho à la victoire de Saint-Étienne, ou plutôt aux épopées vertes de Saint-Étienne, puis à l'épopée bleue et en particulier celle de 82, de 84 et de 86. Donc voilà, il s'agit de multiplier les temps dans l'histoire, comme tout historien est appelé à le faire avec son objet.
Mais alors, dans votre livre, on suit quatre Coupes du Monde, qui correspondent à quatre moments de gloire du football français. Et ce qui est frappant, c'est qu'on a l'impression que vous avez construit le livre comme ça, c'est que on a quand même à chaque fois une même dramaturgie qui se répète. On retrouve des éléments, ou des questions en tout cas, qui sont communes d'une Coupe du Monde à l'autre. Par exemple, le moment où une équipe va vraiment se constituer comme une équipe, et les acteurs à chaque fois insistant sur le fait qu'il y a un moment où tout d'un coup on devient une vraie équipe pour pouvoir avancer dans la compétition, les rapports entre l'équipe et la presse. Enfin, on retrouve comme ça des éléments d'une Coupe du Monde à l'autre.
François ouais, Darrocha, Cameroun. Pour rentrer même dans la fabrique de l'histoire du livre, il avait même été question de partir sur un plan thématique et non pas chronologique comme il a été décidé finalement de le faire, le thématique entrant cette fois dans le chronologique en étudiant chacune des Coupes du Monde les unes après les autres. C'est vrai qu'on retrouve des constantes. Le rapport à la presse est une constante, surtout dès lors que le football est professionnel, mais même avant l'adoption du football professionnel officiellement en 1932 en France, on a une présence très forte de la presse dès 1904, dès le premier match de l'équipe de France, puisque l'auto intervient dans cette construction de la presse.
Dominique Rocheteau, qu'est-ce qui fait équipe pour vous? Vous avez revêtu pour la première fois le maillot des Bleus en 1975 à Nantes contre l'Islande. C'est évidemment une grande...
Pas tout à fait.
C'était le premier match officiel.
Contre le Real de Madrid au Parc des Princes.
Oui, mais ça c'était
pas officiel.
Ça c'était un match amical.
Mais pour moi, c'était le premier match pour moi.
Ouais. Et cette question publique, en fait, du football à faire public, elle se pose aussi avec acuité en 1978. La question est de savoir s'il faut disputer la Coupe du Monde en Argentine. Le pays est dirigé par la junte militaire du général Videla. Écoutez.
Le comité pour le boycott de la Coupe du Monde de football en Argentine a déposé hier au Quai d'Orsay, c'est-à-dire au ministère des Affaires étrangères, une pétition de 50 000 signatures. Un des responsables s'est ensuite expliqué au micro de François Vicard.
Vous savez qu'en Argentine, depuis plus de 2 ans en fait, c'est une véritable dictature militaire qui est au pouvoir, qu'il y a des milliers de morts, de prisonniers, de disparus. Pour le gouvernement argentin, c'est utilisé, cette Coupe du Monde est utilisée pour masquer précisément la répression qu'il développe depuis bientôt 2 ans.
Alors pour vous, Dominique Rocheteau, là c'est un dilemme, y aller ou pas?
C'est pas un dilemme. Alors oui, comme il dit, c'est utilisé, bien sûr. Ils ont utilisé la Coupe du Monde, ça c'est sûr, ils l'ont utilisé. Ils l'ont gagné en plus. Mmh. Ils ont tout fait pour la gagner, même si c'était une grande équipe, l'équipe d'Argentine. Mais moi, c'est vrai qu'on recevait, enfin, j'étais informé, je savais ce qui se passait là-bas. Et j'ai reçu beaucoup de courriers pour boycotter cette Coupe du Monde. J'étais hors de question que j'aille pas à cette Coupe du Monde. Justement, moi, ce que je pensais, c'était en parler, aller sur place et dire ce qui se passait, raconter les femmes qui allaient sur la place pour aller parler de leur mari qui était disparu. Enfin bon, aller sur place pour raconter. Malheureusement, ou montrer au monde entier justement ce qui se passait. Malheureusement, ça s'est pas passé vraiment comme ça. Il y a que les Hollandais qui ont fait un geste à la finale de la Coupe du Monde. Nous, ça a été un peu plus difficile. Et c'est vrai que la presse française, j'avais été un peu déçu, franchement, parce que presse sportive, on n'avait pas parlé beaucoup de ce qui se passait là-bas.
Ça, c'est une manière de nouer football et politique, évidemment, ces grands événements internationaux. Il y en a une autre, vous l'avez suggéré, Paulin Ismar, c'est de se demander, au fond, quelle est, je dirais, la vérité d'une équipe. Qu'est-ce que, au fond, la France...
Il y a cette expression que j'ai découverte en lisant le livre de François. C'est cette expression de Michel Hidalgo en 1981, juste après le match contre le Pays-Bas, qui est un de vos grands matchs, Dominique Rocheteau, avec l'équipe de France, dans lequel au terme de ce match, il dit « ça y est, le football français a trouvé sa vérité ». Il parle de la vérité du football français. Et j'ai l'impression que c'est quand même une question lancinante au sujet, en tout cas, de l'équipe nationale. Est-ce que l'équipe de France a vraiment trouvé sa vérité? C'est une question qu'on s'est longtemps posée, et finalement, elle l'a peut-être trouvée en remportant 2 fois la Coupe du Monde, mais sans avoir un style de jeu qui soit vraiment clairement constitué, qui constitue une tradition footballistique.
Quand il parlait de vérité, il parlait de style de jeu, je pense.
Oui, c'est ça,
style de jeu. En 82, je pense que l'équipe de France a un style de jeu.
Ouais. Enfin, il me semble. Alors, un style de jeu, justement. François Darrocha, Carnero.
Chaque génération, si on peut parler de génération, chaque génération peut avoir à trouver sa propre vérité, son propre style de jeu. Et il n'y a aucune raison pour que le style de jeu de 82 soit répété ad vitam aeternam jusqu'à aujourd'hui, avec d'autres joueurs, avec des joueurs qui n'ont pas connu de toute façon ces compétitions-là.
Quelque part, le style de jeu, c'est l'entraîneur, bien sûr, qui va donner mais c'est aussi les joueurs qui composent l'équipe.
Mais vous diriez pas que pour d'autres pays, au contraire, il y a l'idée, alors qu'il y a une fabrication hein, où on invente d'une façon une tradition de football, mais on parle au contraire d'un style de jeu national qui s'hériterait de génération en génération.
C'est un débat qui remonte au moins aux années 20. Et Gabriel Hanno a écrit de beaux textes sur l'identité de jeu nationale. C'est certainement un faux débat. On a tendance à fantasmer les jeux des autres nations.
Alors les garçons, je vous arrête. Hein, même si on joue en non-mixité aujourd'hui, il faut qu'on avance dans la feuille de match. Justement, en 1982, pour parler de cette mémoire collective, elle est marquée par ce qu'on a appelé la nuit de Séville. Hein, le 8 juillet 1982, un match d'anthologie, la dramaturgie terrible. Celui qui n'a jamais vu ce match, n'a jamais vu un match de Coupe du Monde, expliquera plus tard Michel Platini. Aujourd'hui encore...
Il y en a eu aussi, avant aussi des beaux aussi.
Ouais, mais le souvenir est vif. 70, par exemple. Même.
Le souvenir c'est surtout vif. La façon dont ça s'est déroulé, surtout.
Alors, je rappelle, à la 17e, la RFA ouvre le score. 10 minutes plus tard, Platini égalise sur pénalty. À la 53e, l'arbitre vous refuse un but, Dominique Rocheteau, pour une faute pas si évidente. Ça sera pas la seule décision discutable. 3 minutes plus tard, le gardien de but, Ralf Schumacher, charge Patrick Battiston qui sort sur une civière. Marius Trésor marque à la 92e, puis Alain Giresse, 3-1 pour la France, jusqu'à ce que les Allemands remontent au score. Et ça nous intéresse, les amis historiens, parce que dans votre livre de souvenirs, vous dites, Dominique Rocheteau, tout aurait pu s'arrêter à la dernière minute du temps réglementaire quand Manu Amoros a envoyé le ballon sur la barre transversale de Schumacher. Nous aurions été qualifiés pour la finale, nous aurions peut-être, qui sait, écrit la plus belle page de l'histoire de foot français, mais ce match de Séville ne serait pas entré dans la légende.
Oui, enfin, je pense que si Amoros avait marqué, je pense que le match serait quand même rentré dans la légende et personnellement, j'aurais préféré.
Vous auriez préféré.
Oui, je pense. Mais
ouais. On est là dans l'histoire des possibles. C'est vraiment, oui, ça se joue à très peu de choses, à des choix de coaching pour faire rentrer Gengini, puis Battiston.
Et Christian Lopez.
Et Christian Lopez à la place de Battiston. Voilà. Et aussi au fait de ne pas tenir le score lorsqu'on mène 3-1, alors que d'autres joueurs dans d'autres pays, à ce moment-là, savent tenir un score. Et je pense en particulier aux Italiens, qu'on ne connaît pas encore beaucoup par l'expérience.
C'est pour ça qu'on a parlé de notre équipe comme certains football romantiques, je dirais. Oui. Voilà, un peu.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un match qui existe de façon très très forte pour énormément de gens qui ne l'ont jamais vu. Mmh. Ou qui l'ont vu bien plus tard, mais qui en ont entendu parler. Moi, j'ai grandi avec le souvenir de Séville que je n'ai pourtant absolument jamais
c'est
vu.
C'est un souvenir reconstitué. Ouais, et en tout cas, ce qui est certain, c'est que, voilà, ça... Il y a eu, je ne sais pas si on peut appeler ça une vérité du football français, mais la certitude qu'il n'y a pas que la victoire qui est belle. À la question « Quel est le plus beau match de l'équipe de France ?», vous avez tous répondu, en tout cas tous les trois, le quart de finale de la Coupe du Monde au Mexique, qui s'est joué le 21 juin 1986 à Guadalajara, France-Brésil. La France gagne, c'est vrai, au pénalty. Michel Platini rate le sien, Luis Fernandez sauve son équipe, mais c'est vous, Dominique Rocheteau, qui marquait les esprits en driblant sur un air de samba, un, puis deux, puis trois, puis quatre Brésiliens dans le vent. Écoutez.
Ah, le ballon était trop entre ses jambes, Michel, il n'a pas bien pu armer son
pied. Et il l'a bien conduit quand même, hein.
Ah oui, il a fait un slalom extraordinaire. Il a frappé, il a été contré.
Et il y a un joueur brésilien qui se tord de douleur, là, c'est Julio César qui est touché, qui est en dehors des limites du terrain. Ferreri va venir tirer ce corner. Julio César est touché. Et ce score, un but partout après 5 minutes de jeu en prolongation. Corner on a tiré par Ferreri.
Topirador.
Dominique Rocheteau.
Ah bah c'est un grand souvenir pour moi. C'est un grand souvenir. D'une part on s'est qualifié contre, pour moi, peut-être une des plus grandes équipes du Brésil. Même si cette équipe n'a pas gagné de Coupe du Monde par rapport à d'autres équipes du Brésil avec des Zico, Socrates. Enfin bon, une équipe assez fabuleuse. Et d'autre part c'était un match aussi magnifique parce que les deux équipes ont pratiqué un football le football vraiment moi que j'aime et puis qu'on aime quoi, un football à la fois tourné vers l'offensive et toujours et simple, hein, très simple à une touche de balle, deux touches de balle.
Le stade n'était plus qu'une
somme. Et le stade et bien sûr l'ambiance ouais. aussi. Ouais.
Vous écrivez dans votre autobiographie, le stade n'était plus qu'une samba géante. Il se mettait à tanguer sur un rythme à vous donner le vertige. Cette pulsion fascinante ne nous lâchera plus durant 120 minutes. D'ailleurs, c'est assez intéressant, vous avez dit, votre amour pour la musique, Dominique Rocheteau. J'ai lu votre autobiographie, le mot le plus insistant, c'est rythme. Un coup, c'est du rock, un coup, c'est du reggae, hein, Bob Marley, que vous écoutez pendant votre tournée au Gabon en 1979. Un coup, c'est la bossa nova. C'est l'art du rythme, quand même, le football.
Ah ben là, c'est ce que j'ai dit. Hein. On avait l'impression, de ce match-là, de jouer sur sur un rythme de samba, sur un rythme brésilien, et c'était super, quoi.
Et aujourd'hui, sur quel tempo se joue le football que vous aimez? C'est toujours Lionel Messi, votre joueur préféré?
Ah ben oui, c'est toujours Lionel Messi, parce que c'est le talent à l'état pur, et il fait lever les foules, et puis voilà, et donc c'est un joueur fabuleux.
Donc c'est un danseur de tango?
Ah, je sais pas, c'est difficile. Oui, de toute façon, quand on parlait de football, de style, c'est sûr qu'il y a le style sud-américain, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais c'est vrai que les Brésiliens et les Argentins, c'est pas le même style aussi. Mais et puis un style aussi européen, hein, faut dire les choses comme elles sont.
Ouais, c'est un danseur de tango. Enfin, ça m'arrangerait que vous disiez ça parce que c'est notre générique, écoutez. D'accord. C'est la fin, c'est pour ça qu'on doit s'arrêter. Merci Dominique Rocheteau, merci François Rochat-Dacarnero, merci Paulin Ismar. Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier et réalisée par Xavier Pestugia. La technique était assurée aujourd'hui par Ludovic Asselot. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques sur le site de France Inter, à la page de notre émission. La semaine prochaine, nous recevrons le scénariste Wilfried Lupano, qui vient de publier la bande dessinée La Bibliomule de Cordoue aux éditions Dargaud. Bon dimanche sur France Inter.